J'ai rédigé avec soin, mais cela ne m'a pas pris longtemps. Dans un cas comme celui-ci, encore qu'il n'y ait jamais eu de cas exactement semblable dans toute l'histoire du monde, j'ai estimé que le mieux était de faire court. J'ai gardé au premier plan de mon esprit l'idée du héros modeste de Hostie. J'étais vraiment content d'avoir réussi à dormir quelques heures. Mon sommeil avait été traversé de rêves sinistres, mais j'avais la tête relativement claire. Le temps que je termine, Hostie en était à son troisième verre de champagne. Il avait sorti un certain nombre de choses de sa sacoche et les avait disposées sur la table basse. Je lui ai remis le bloc-notes et il a commencé à lire ce que j'avais écrit. Dehors, le tonnerre gronda encore et un éclair illumina brièvement le ciel nocturne. Mais je pensais que l'orage était encore loin. Pendant qu'il lisait, j'ai examiné ce qu'il avait posé sur la table basse. Il y avait ma Timex, le seul objet qui, pour quelque raison que ce soit, ne m'avait pas été restitué avec le reste de mes effets personnels lorsque nous avions quitté la boîte des flics. Il y avait une paire de lunettes à monture d'écaille. Je les ai ramassées et essayées. C'était des verres ordinaires. Il y avait une clé à tige creuse sans encoche. Une enveloppe contenant ce qui ressemblait à $1,000,000 en coupures de 20 et de 50 usagées. Une résille pour les cheveux. Et un uniforme blanc composé d'un pantalon et d'une tunique. Le tissu de coton paraissait aussi mince que mon histoire selon le verdict de Hostie. « Elle est bonne, cette lettre !» a décrété Hostie en reposant le bloc-notes. « On sent bien ta tristesse, comme Richard Kimball dans Le Fugitif. Tu le regardes, celui-là ? » J'avais vu la version grand écran avec Tommy Lee Jones, mais c'était pas exactement le moment d'évoquer ça. Non. Tu seras un fugitif, c'est entendu. Mais seulement pour la presse et un public américain avide de tout savoir sur toi. Quel genre de jus tu bois le matin, la taille de tes sous-vêtements. T'es un sujet d'intérêt humain, Anderson, mais pas celui de la police. Tu n'as pas tué ta petite amie. Tu n'as même pas tué Oswald. J'ai essayé. Si je ne l'avais pas manqué, elle serait encore en vie. Ah ! Je me culpabiliserais pas trop pour ça si j'étais toi. Cette pièce du cinquième étage était vaste et un 38 n'a pas beaucoup de précision de loin. Exact. Il fallait être dans un rayon de 15 mètres, d'après ce qu'on m'avait indiqué. Plus d'une fois. Mais je ne l'ai pas dit. Je pensais que ma brève accointance avec l'agent spécial James Hostie était presque terminée. Pour tout vous dire, il me tardait. Tu es libre. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de rallier un endroit où les tiens pourront te récupérer et te réexpédier dans ton nulle part fantôme. Tu peux réussir ça ? Nulle part, dans mon cas, c'était un terrier qui me ferait remonter 48 ans dans le futur, en admettant que le terrier soit toujours là. Je crois que oui. Tu feras bien. Parce que si t'essayes de nous nuire, t'auras un double retour de boomerang. Mr. Hoover, disons juste que le directeur est pas un homme de pardon. Dites-moi comment je sors de l'hôtel. Tu vas passer cette tenue de cuistot, ces lunettes et cette résille. La clé commande l'ascenseur de service. Il te descendra jusqu'à B-1. Tu traverses direct la cuisine et tu sors par la porte de derrière. Tu me suis ? Oui. Une voiture du bureau t'attendra dehors. Tu montes à l'arrière. Tu parles pas au chauffeur, c'est pas un service de limousine. Il t'emmène à la gare routière. Il a trois destinations à t'offrir. Tampa, à 23h40, Little Rock, à 23h50, ou Albuquerque, à 20:30. Je veux pas savoir laquelle tu prends. Toi, tout ce que tu dois savoir, c'est que notre association se termine là. Il est de ta responsabilité exclusive... et de ceux pour qui tu travailles, évidemment, de rester hors de vue. Évidemment. Le téléphone a sonné. Si c'est un petit futé de journaliste qui a trouvé le moyen de passer à travers le filtre, débarrasse-toi de lui, m'a dit Hostie. Et pas un mot de ma présence ici, sinon je te coupe la gorge. Je me suis dit qu'il plaisantait, mais je n'en étais pas tout à fait sûr. J'ai décroché. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je suis assez fatigué pour le moment, alors... La voix émue au bout du fil m'a dit qu'elle ne m'accaparerait pas longtemps. J'ai articulé « Jackie Kennedy » à l'attention de Hostie. Il a hoché la tête et s'est servi un peu plus de mon champagne. Je me suis détourné comme si, en lui tournant le dos, je pouvais l'empêcher d'entendre la conversation. « Madame Kennedy, vous n'aviez pas besoin d'appeler, vraiment, je lui ai dit. Mais je suis néanmoins très honoré que vous l'ayez fait. »«
Je tenais à vous remercier pour ce que vous avez fait. »
a-t-elle dit.
« Je sais que mon mari vous a déjà remercié en notre nom à tous les deux, mais... Monsieur Humberson... »
La première dame s'est mise à pleurer.
« Je tenais à vous remercier, au nom de nos enfants qui ont pu dire bonne nuit à leur papa et à leur maman ce soir au téléphone. »
Caroline et John. Je n'avais pas une seconde pensé à eux jusqu'à cet instant. « Madame Kennedy... Si c'était à refaire, je le referais. »
J'ai cru comprendre que la jeune femme qui est décédée aurait dû devenir votre épouse.
C'est exact.
Vous devez avoir le cœur brisé. S'il vous plaît, acceptez mes condoléances. C'est une piètre consolation, je le sais, mais c'est tout ce que j'ai à vous offrir.
Je vous remercie.
Si je pouvais changer les choses... Si j'avais le moyen de remonter le temps...
Non, j'ai pensé. Ça, c'est mon boulot, Miss Jackie. Je comprends. Je vous remercie. Nous avons bavardé encore un peu. Cette conversation fut beaucoup plus difficile que celle que j'avais eue avec Kennedy au commissariat de police. En partie parce que celle-là m'avait fait l'effet d'un rêve, alors que celle-ci était plus réelle. Mais c'était surtout le fait, je pense, de la peur résiduelle que j'entendais dans la voix de Jacqueline Kennedy. Elle semblait vraiment comprendre qu'ils avaient frôlé la mort de très près. Je n'avais pas du tout eu la même impression avec le président. Lui semblait se croire investi d'une chance, d'une bénédiction, peut-être même d'une immortalité providentielle. Vers la fin de notre conversation, je me souviens de lui avoir demandé de veiller à ce que son mari renonce à rouler dans des voitures décapotées pendant toute la durée de sa présidence. Elle m'a assuré qu'elle y veillerait, puis m'a remercié encore une fois. Je lui répétais que si c'était à refaire, je le referais, puis j'ai raccroché. Quand je me suis retourné, j'ai vu que j'avais la chambre pour moi seul. À un moment quelconque, pendant que je conversais avec Jacqueline Kennedy, Hostie était parti. Tout ce qui restait de lui, c'était deux mégots dans le cendrier, un verre de champagne à moitié bu et une autre note griffonnée, posée à côté du bloc-notes jaune renfermant ma lettre acquis de droit. J'ai lu « Débarrasse-toi du micro avant d'entrer dans la gare ». Et en dessous « Bonne chance, Humberson. Encore désolé pour ta perte ». H. Peut-être qu'il l'était, mais désolé est un mot éculé, vous trouvez pas? Désolé, c'est tellement éculé. J'ai enfilé mon déguisement de garçon de popote et pris un ascenseur qui sentait le bouillon de poule, la sauce barbecue et le Jack Daniels. Quand les portes se sont ouvertes à B-1, j'ai traversé d'un pas alerte la cuisine emplie de vapeurs parfumées sans que quiconque m'adresse un regard. Je suis sorti dans une ruelle où deux ivrognes farfouillaient dans une poubelle. Ils ne m'ont pas regardé non plus, quoiqu'ils aient levé les yeux quand un grand éclair a momentanément illuminé le ciel. Une berline Ford sans signe distinctif tournait au ralenti à l'entrée de la ruelle. Je suis monté à l'arrière et nous sommes partis. L'homme au volant n'a fait qu'un commentaire avant d'arriver à la station des bus Greyhound. « Dirait qu'il va pleuvoir !» Il m'a présenté les trois billets, comme un pauvre qui plie une main au poker. J'ai pris celui à destination de Little Rock. J'avais environ une heure. Je suis entré dans la boutique de cadeaux m'acheter une valise bon marché. Si tout se passait bien, Je finirai par avoir quelque chose à mettre dedans. Je n'aurai pas besoin de beaucoup. J'avais toutes sortes de vêtements chez moi à Sebeitus, et même si ce domicile se trouvait presque à 50 ans de là dans le futur, j'espérais y être en moins d'une semaine. Un paradoxe qui aurait pu plaire à Einstein. Et je n'ai pas pensé une seconde, avec mon esprit là, rongé par le chagrin, qu'en tenant compte de l'effet papillon, ce domicile-là risquait fort de ne plus être à moi, à supposer même qu'il soit encore là. J'ai aussi acheté un journal, une édition spéciale du Slimes Herald, avec une seule photo à la une, peut-être prise par un professionnel, plus probablement par un spectateur en veine. On voyait Kennedy penché sur la femme avec qui j'avais parlé il y a peu, la femme qui, ce soir-là, avait pu ôter un tailleur rose exempt de toute tache de sang. John F. Kennedy protège son épouse de son corps, tandis que la limousine présidentielle accélère, abandonnant le théâtre de ce qui a failli être une catastrophe nationale, disait la légende. Au-dessus figurait un grand titre en typo géante. Il y avait largement de la place, mais un seul mot l'occupait. Sauvé. Je me suis reporté à la page 2 où m'attendait une autre photo, celle de Sadie. L'air incroyablement jeune et incroyablement belle. Elle souriait. « J'ai toute la vie devant moi », disait ce sourire. Assis sur l'une des chaises à lattes de bois, avec autour de moi le va-et-vient des voyageurs nocturnes, les pleurs des bébés, les rires des militaires chargés de sacs de paquetage, les hommes d'affaires faisant cirer leurs souliers et les haut-parleurs annonçant les arrivées et les départs, j'ai soigneusement plié le journal le long des bords de la photo pour pouvoir la découper sans déchirer son visage. Cela fait, je l'ai contemplée longuement avant de la plier et de la ranger dans mon portefeuille. Quant au reste du journal, je l'ai jeté. Il ne contenait rien que j'ai envie de lire. Les passagers à destination de Little Rock furent appelés à 23h20 et je rejoins la petite foule agglutinée devant la porte indiquée. Je portais mes fausses lunettes, mais à part ça, je n'ai fait aucun effort pour cacher mon visage. Personne ne m'a regardé avec un intérêt particulier, de toute façon. J'étais juste une cellule dans le flux sanguin de Transit America, ni plus ni moins importante que les autres. « J'ai changé votre vie aujourd'hui », pensais-je tout en regardant les personnes présentes au tournant de cette journée mémorable. Mais je ne retirais ni triomphe, ni émerveillement de cette idée. Elle semblait dépourvue de toute charge émotionnelle, positive ou négative. Je suis monté dans le bus et allé m'asseoir dans le fond. Il y avait beaucoup de gars en uniforme à l'avant, probablement à destination de la base de l'armée de l'air de Little Rock. Sans ce que nous avions fait aujourd'hui, certains d'entre eux seraient morts au Vietnam. D'autres seraient rentrés au pays mutilés. Qu'est-ce qui nous attendait maintenant? Qui le savait? Le bus a démarré. Quand nous sommes sortis de Dallas, le ciel tenait plus fort et les éclairs étaient plus lumineux, mais il n'y avait toujours pas de pluie. Le temps que nous arrivions à Sulphur Springs, l'orage qui menaçait était derrière nous et les étoiles s'étaient allumées par milliers, brillantes comme des copeaux de glace et deux fois plus froides. Je les ai contemplées un moment, puis je me suis adossé, j'ai fermé les yeux et écouté les pneus du grand lévrier dévorer l'asphalte de l'autoroute 30. « Sadie !» chantaient les pneus. « Sadie ! Sadie ! Sadie !» Enfin, peu après 2h du matin, je me suis endormi. À Little Rock, j'ai acheté un billet pour le bus de midi à destination de Pittsburgh, avec un seul arrêt à Indianapolis. J'ai pris le petit déjeuner au buffet de la gare, près d'un vieux type qui mangeait avec une radio portative posée sur la table devant lui. Elle était de grand format et couverte de boutons luisants. La nouvelle principale était toujours la tentative d'assassinat, bien sûr, et Sadie. Sadie était à l'honneur. Elle aurait droit à des funérailles nationales, suivie d'une inhumation au cimetière national d'Arlington. On s'attendait à ce que JFK en personne prononce l'éloge funèbre. En lien avec cette actualité, l'apparition devant la presse du fiancé de Miss Dunhill, George Amberson, également de Jody au Texas, prévue à 10 heures, avait été reportée en fin d'après-midi. Raison inexpliquée. Hostie faisait tout ce qui était en son pouvoir pour me laisser le temps de fuir. Bon pour moi, bon pour lui aussi bien sûr, et pour son précieux directeur.
Le président et ses sauveurs héroïques ne constituent pas la seule actualité en provenance du Texas ce matin,
annonça la radio du vieux Zig. Et j'ai interrompu mon geste. Une tasse de café noir à mi-hauteur entre la soucoupe et mes lèvres. Je sentais un picotement amer dans ma bouche que j'avais appris à reconnaître. Un psychologue aurait pu appeler ça une sensation de presque vue, ce que les gens ressentent parfois quand quelque chose d'extraordinaire va se produire. Quant à moi, je lui donnais un nom beaucoup plus humble, une harmonie.
À un peu plus d'une heure du matin, au plus fort d'un violent orage, une tornade surprise a balayé un quartier de Fort Worth, détruisant un entrepôt de la Montgomery Ward et une douzaine de maisons. Deux personnes sont mortes. Quatre sont portées disparues.
Que parmi ces maisons se trouvent le 2703 et le 2706 Mercedes Street ne faisait aucun doute pour moi. Un vent furieux les avait effacées, comme une mauvaise équation.